Eh bien, le bonsoir à tout le monde. Il est 20h. Nous ne sommes pas en direct sur 48FM. Nous vous expliquerons pourquoi tout à l'heure. Bonsoir, Dave.
Bonsoir.
Alors, Dave, comment ça va?
Pour l'instant, très bien.
Alors, tu restes pas longtemps, je crois?
Non, d'ailleurs, je dois y aller là.
Tu vas faire quoi exactement?
Je vais être parachuté dans le golfe Persique pour.
Pour cueillir des champignons.
Il vaut mieux pas expliquer voilà. Pourquoi, non, c'est top secret.
C'est top secret.
Non, enfin, les cèpes du golfe Persique.
Pas terrible.
Ah, oh, si, ils vont faire concurrence à la Lozère, justement.
Exactement.
Voilà. Tu en as déjà trop dit, je pense, là, parce que les champignons, c'est un peu détendu ici.
Fabien, j'aimerais que tu parles quand je te donne la parole, pas avant, s'il te plaît. Bonsoir, Fabien.
Ah, c'est à moi, pardon. Bonsoir.
Comment ça va, Fabien?
Bon, ça va, je suis un peu fatigué, parce qu'à 8h, moi, d'habitude, je me couche.
Et ouais, moi aussi. Bonsoir, Luc.
Bonsoir, Ludo. Bonsoir, tout le monde.
Alors, comment ça va, Luc?
Ah, nickel. J'ai gagné au basket hier.
Ouais, super.
Ah oui, c'est vrai. Combien t'as marqué de points?
Zéro.
Oui, mais il a deux passes décisives et un rebond.
Ouais,
t'as fait ton dunk arrière ou pas?
Oui, mais personne n'était là pour le voir, donc voilà.
Et à les hoops, il paraît.
Les deux.
Ouais. Bon, Luc, on est à une émission de rock'n'roll que, comme tous les mardis de chaque mois, on va parler de rock'n'roll, je suppose, encore aujourd'hui.
On va parler de Céline Dion.
Butterfly, gonna spend the day higher than high. You'll leave beautiful confusion. Ooh, once I was you.
Et voilà, vous avez reconnu ou pas Independence Day de Elliott Smith, car c'est bien de cet artiste dont il s'agit aujourd'hui. Luc, parle-nous un peu de la jeunesse de cet artiste.
Il n'empêche qu'on parlera aussi de Céline Dion, je vous le promets. Elliott Smith, alors Steve Paul Smith, de son nom de naissance d'ailleurs, parce qu'il mettra un peu de temps, on va s'appeler Elliott. Il est né en 69, en août 69. Et d'ailleurs, petit clin d'œil de l'histoire, dans quasiment une semaine jour pour jour, on fêtera les 10 ans de la mort d'Eliot Smith.
Il ne faut pas dire la fin, là. Tu as dit qu'il est mort
déjà. Non, mais les gens, ils savent qu'il est mort.
Bah, oui.
Tu ne savais pas, Fabien?
Merde. On est toujours bien synchro hein, avec les dates anniversaires.
Ouais, on est pas mal. Hein.
Quand même.
La dernière fois, on a fait une émission, c'était les 10 ans de la mort de Johnny Cash. Johnny Cash est mort, Fabien.
Non.
Oui.
Il le sait.
Johnny Cash qui a d'ailleurs une histoire avec Elliott Smith, mais on va en parler tout à l'heure.
Ou pas. Donc, il est né dans l'Omaha, dans le Nebraska, pardon.
Omaha, qui est là.
La capitale.
Oui, du Nebraska.
Du Nebraska.
La capitale de la Normandie.
Mais non.
Non, mais il y a des plages à Omaha.
Je suis allé à Omaha.
Et tu as rencontré le...
Et j'ai pas rencontré le président du fan club de Jefferson Airplane.
Mais c'est le nom du président américain aussi.
C'est pile poil entre North Platte et Lincoln.
Barack Obama. Ok.
Ouais.
Beach.
Alors, à nos auditeurs, hein, cette émission est enregistrée. On espère que cette blague sera coupée au montage.
Voilà. À cause de qui, Fabien ?
À cause du président des Pays-Bas.
Voilà, François Hollande.
Voilà.
François Hollande, et du coup, il est
ça
en
ça
visite.
Ça nous empêche. En fait, c'est de la censure. Donc, faut dire les mots au bout d'un moment. Voilà, c'est. Ouais. D'habitude, on fait cette émission en direct le mardi, un mardi par mois, le soir, et ça commence à gêner en très haut lieu. Oui. On vous le dit, voilà.
Voilà.
Bientôt, cette émission sera bâillonnée.
Mais en attendant,
on espère.
En attendant, on peut s'exprimer, Luc.
On peut s'exprimer. Donc, il est né dans le Nebraska, maman est institutrice, papa est étudiant en médecine, mais ça n'a pas duré.
Les études, ça finit un jour.
Et... il vient, en fait, très vite, ses parents divorcent. Et son père part pour devenir militaire dans l'US Air Force. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait la médecine, hein, finalement, vous en conviendrez. Donc, le jeune, et il est envoyé en Philippines. Donc, imaginez-vous qu'il ne va pas voir son père tout de suite. Tandis que Fabien ouvre une bouteille de limonade. Non, ce n'est pas de la bière.
C'est du tonic.
Ah,
j'en veux aussi du tonic. Le mec, il s'emballe.
Ouais.
Donc, Steven, qui n'est pas encore Elliot, mais Steven et sa mère déménagent.
On dit Steven, parce qu'après, il va aller au Texas.
Au Texas, c'est exactement avec Peter. Peter et Steven vont au Texas. Ils partent au Texas, sa mère se remarie, on est en 73. Elliot a 4 ans. Le problème, c'est que le nouvel époux de sa mère est violent, il la bat. Il bat, le jeune Steven. Qui va écrire une fois dans une chanson qui s'appelle Some Song, Charlie te bat semaine après semaine et quand tu seras grand, tu seras taré. Donc Charlie étant le nom de son beau-père, il n'avait pas tout à fait tort visiblement. D'autres sources disent même qu'il l'aurait abusé sexuellement.
Lui-même l'aurait laissé sous-entendre dans des interviews à demi-mot.
Voilà. Il le cite souvent d'ailleurs dans plusieurs chansons, hein, puisque... Il le cite dans Flowers for Charlie, No Confidence Man, et même d'après Elliott Smith, la chanson Vals 2, donc, qui est la préférée de Dave, Vals 2,
la suite de
Vals 1.
Elle y est, Vals 1 aussi. Hein.
Elle y est.
Est moins bien.
Donc Vals 2 serait en fait directement inspiré par son beau-père. La famille Smith, donc recomposée, est très croyante et notamment Elliot va tous les dimanches à la messe avec sa maman, son beau papa et tout le reste. Et apparemment, il s'en fout complètement. Il aime pas ça du tout. Et la seule chose qui va le marquer finalement va être marquée par l'enfer. C'est un petit peu le souvenir qu'il gardera de cette période. De la pizza, oui. On commence la distribution de pizza aussi. On ne vous cache rien dans cette émission. Par contre, c'est un garçon précoce. À 9 ans, il commence à jouer de divers instruments de musique, notamment la guitare et le piano.
Précoce.
9 ans, et à 13 ans, il va écrire sa première chanson. C'est pas mal. Alors, hein.
C'est pas particulièrement précoce. Après, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un multi-instrumentiste. Souvent, on se met à la guitare ou au piano ou machin. Ouais, il fait ça. Et après, pendant ses études au lycée, etc., il fait de la clarinette, il fait toutes sortes d'instruments vraiment, et plus sérieusement. Donc, bon, là, c'est un peu plus.
Moi, j'ai 37 ans, je commence juste la guitare.
Oui.
Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Hein.
D'où les nombreuses plaintes pour ta page nocturne qui est en ce moment abandonnée.
C'est ça, et le fantôme de Joe Strummer qui vient me hanter en disant « Arrête d'essayer de jouer les chansons des Clash avec ta guitare, t'es nul. »
Pourtant, les Clash, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Mais...
Ça te montre mon niveau. Donc, on parle de la guitare. Il commence... En fait, dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui font de la musique, notamment son grand-père. qui était batteur dans une chorale dans un groupe de Dixieland américain, et sa grand-mère était dans une chorale, finalement pas très musicale tout ça. Le petit Smith grandit, il écoute de la musique, il est notamment très très influencé, il va écouter beaucoup d'albums de Bob Dylan, et il va devenir un fan inconditionnel des Beatles en tant que Beatles et solo, puisqu'il a, il va aussi adorer.
Depuis l'âge de 4 ans.
Ouais, depuis l'âge de 4 ans, il écoute les Beatles.
Dylan, les Beatles.
Et surtout l'album blanc. Choix. Et d'ailleurs, il reprendra beaucoup l'album blanc sur scène. Il reprend Long, Revolution.
Ce qui est paradoxal, on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'il adore les Beatles, il en fait beaucoup de reprises sur scène. Et finalement, dans ses albums, il y en a très peu.
Non, et après, il en a enregistré une pour de vrai qui est sortie sur la BO d'American Beauty, qui est Because, extrait de Abbey Road.
Qui fait le générique.
Et voilà, qui fait le générique. Et une autre qu'il a enregistrée, mais pas sortie, qui est Revolution, qu'il a enregistrée au moment de Figure 8 ou XO.
Ouais. Mais paradoxalement, il a fait très peu de reprises sur ses albums.
Oh, c'est pas très commun de mettre des reprises sur des albums personnels.
Tout le monde le fait, en fait.
C'était peut-être pas la période, tu vas me dire. C'est peut-être une période un peu plus récente. Enfin bref.
J'ai jamais entendu de reprise sur les albums des Beatles. Hein.
Bim
To Strange Out. On est dans.
Ah, au début, oui, mais ça compte pas, ça. Ça compte pas.
Ouais, enfin, je veux dire.
Par la partie.
Jusqu'à Help, hein, donc jusqu'à la moitié de leur carrière, il y a des reprises. Donc c'est la moitié de leur carrière.
Mais ça, c'est l'époque qu'ils voulaient aussi qu'on fasse des reprises dans les années 50.
Ils ont beaucoup joué pour la BBC, surtout. Leur session à la BBC, beaucoup de reprises.
Très bien, Dave. C'est bien. Belle intervention, merci.
Voilà. Quant à Elliott Smith, il déménage à Portland, dans l'Oregon. L'Oregon.
Oui.
Pour suivre son papa, cette fois, il part avec son père.
Qui est devenu psychiatre.
Qui est devenu exactement psychiatre. Et donc, c'est à cette époque qu'il commence à avoir ses premiers soucis avec la drogue, l'alcool. Tous ces genres de choses. Et il commence aussi à enregistrer des morceaux avec un 4 pistes qu'il a emprunté à un ami avec un enregistreur 4 pistes. Donc c'est là où il commence à faire vraiment ses premiers pas dans la musique, dans quelque chose un peu de construit. Il a son premier groupe au lycée qui s'appelle Stranger Than Fiction. Je crois qu'au lycée, il y en a deux en fait.
Il y en a un autre, mais j'ai oublié le nom.
Ouais, il y a surtout Stranger Than Fiction. Et c'est à cette période aussi.
Il va changer de nom.
Il va changer de nom. Voilà, A Murder of Crows, qui est le deuxième groupe de
Meurtre de Corbeau.
Exactement. Il signait Stephen Smith et Johnny Panic.
Voilà. Il explique pourquoi Elliott.
Il y a plusieurs explications, elles ont toujours été floues. Déjà, il y a plusieurs explications sur le fait qu'il ait changé son propre nom. Parce qu'avant de choisir Elliott, déjà, ça veut dire qu'il n'aime pas. Alors, il disait qu'il n'aimait pas Steven. Bonne explication. Qu'il y avait le batteur de Journey, un groupe un peu pompeux des années 70 aux États-Unis, qui s'appelait Steven Smith. Bon, ça peut expliquer aussi.
Dave Connay.
Je ne l'ai pas confondu. Voilà. Il y a plusieurs explications comme ça, mais il n'y en a aucune de vraiment concluante. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu plusieurs surnoms de toute façon dans cette période-là, lycée, les premiers groupes et tout. Qu'il a toujours eu plusieurs noms et que bon au final il s'est basé sur Elliott et puis
et que Elliott a priori, alors selon son biographe, c'était le nom de la rue où il habitait à Portland, Elliott Avenue, et que ou alors c'était sa petite amie de l'époque,
Céline, une Canadienne,
sa petite amie de l'époque, je sais pas si c'était celle-là.
Canadienne.
Une tante canadienne, une veste, qui lui aurait soufflé ce prénom de d'Elliott finalement.
Ok.
Il a changé.
Ça a peu d'importance au final.
Ouais,
au final,
oui. Ouais, ouais. Mais ce qui est important, c'est le fait de changer de nom en soi.
C'est pas un nom d'artiste qui va prendre comme beaucoup d'artistes qui prennent des pseudonymes. Lui, il a vraiment changé son nom. C'est pas pour les besoins de la scène. Voilà. Il est diplômé en 87, diplôme de philosophie et sciences politiques. Mais en fait, il s'en fout un peu parce qu'il. Lui dit
ah,
que.
Bien quand même.
Ah ben ouais. Il a fini premier au lycée juste avant. Il a des problèmes scolaires dans le sens où il est un peu perturbé déjà, mais il est très bon. Enfin, il est intelligent.
Il est très bon. D'ailleurs, bon,
il est curieux.
Il part dans la fac de Hampshire dans le Massachusetts, donc c'est là où il est diplômé. Hein. Et il déclare, j'imagine que ça a montré que je pouvais pendant 4 ans faire quelque chose dont je n'avais absolument pas envie, même si j'appréciais quelque part. Ce que j'apprenais à l'époque, aller à l'université m'apparaissait comme la chance d'une vie, mais j'y étais surtout allé à cause de ma petite amie et nous avons finalement rompu avant le premier jour des cours.
Oui.
Voilà.
Il a quand même fait tous les cours.
Il a quand même fait tous les cours et après avoir eu brillamment son diplôme, il va travailler comme boulanger à Portland.
Ouais. C'est curieux hein, comme trajectoire. Tu pris le premier du lycée, tu fais philo aux sciences politiques et boulanger. Puis boulanger.
Voilà.
Il Mais... parlait à son pain le matin, il paraît.
Et c'est ça.
C'est possible. Mmh.
C'est ça. Il lui jouait de la musique. Mmh. Il jouait de la flûte.
Ah oui. Ou de la baguette.
J'ai pas compris.
Ah là, si, la flûte.
Baguette, batterie.
C'est trop bon.
Voilà, vas-y. En parallèle, il va former son premier vrai groupe, enfin, en dehors des groupes de collège et de lycée, qui s'appelle It Miser, ouais, qui va être le premier groupe avec lequel il va vraiment faire de la musique de façon professionnelle. Donc,
faut se rappeler, on est au début des années 90 maintenant. On est
91.
Voilà, 91.
91, hein, c'est ça.
C'est important parce qu'on est à Portland, donc pas très loin de Seattle, et que le gros truc du moment, c'est le grunge, c'est Nirvana, c'est Madonna, c'est Sonic Youth, tous les trucs un peu attachés aussi au grunge.
Quelle année t'as dit 91.
91, l'année de Nevermind. Donc bon, voilà, autant dire que ça explose et qu'eux, ils font du proto-grunge punk.
Ils font du.
Échelle Beatles 91.
Échelle Beatles 91, on commence à songer à sortir les BBC Sessions de 94 et ils sont à fond dans le projet Anthologie, ils sont en train d'écrire le bouquin et de faire les DVD pour 95.
Très bien, c'était un piège. Bien joué, Fabien.
Mais en 91, il y a Police Live aussi. Il fait sa tournée, il reprend les chansons des Beatles un peu partout avec un nouveau groupe.
Police, le groupe
et Jude et compagnie, quoi.
Tu veux dire Police, le groupe de...
De John as Police Woman ?
Non. Non, de Sting. Non,
91, donc...
91,
Le petit Elliot ne fait pas de grunge, lui.
Justement,
avec
Ed
Miser, il faut du grunge.
C'est du grunge... On les compare à Fugazi. Je sais pas si tu connais Fugazi.
C'est une sorte de punk.
Bien sûr, je connais
Fugazi, moderne.
Dave. Tu connais Fugazi ?
De nom. Ouais. C'est une sorte de punk Sonic Youth. C'est un peu cette mouvance-là. Ouais. Mm. Voilà.
Comment ça s'appelle ce cours musical de regarder ses chaussures ?
Shoegazing.
Shoegazing.
Hein, voilà. Ça. Donc tu es, paraît-il, un grand spécialiste.
Absolument. Ça s'appelle le bzz aussi pour certains. Comme la musique industrielle, tu fais du bzz.
Ouais.
Voilà, ils sont quatre dans ce groupe, donc en plus donc Elliot Smith, Neil Gust, Tony Lash et Brand Peterson. Voilà pour les quatre qui vont former It Miser. Le premier groupe qui va signer un contrat. Alors là, c'est un peu compliqué les histoires de contrat. Ils vont signer chez Virgin Records, qui va plus tard être racheté par DreamWorks, donc les fameux studios DreamWorks. Mais alors en même temps, ils signent chez Virgin, mais le groupe se sépare en 95. Donc en gros, je crois que c'est à peine un an après qu'ils aient signé.
En fait, ils ont fait deux albums sous un autre label et ils signent pour un truc un peu plus gros chez Virgin pour le troisième. Et ils sont déjà séparés quand ça sort. En gros. Ouais.
Voilà. Mais par contre, le groupe se sépare, mais Elliot Smith va rester lié à Virgin.
Il reste sous contrat malgré lui, quoi, de toute façon, jusqu'à la fin de sa vie, plus ou moins. Même qu'il soit en solo, en gros, ils ont déjà les droits sur ses futures chansons.
Voilà.
Un peu compliqué, mais ça va on verra à la fin de sa vie que ça va le marquer quand même indirectement. Pas Virgin en tant que tel, mais les contrats avec les maisons de disques, ça va lui poser de gros problèmes.
Le van blanc.
Oui, voilà, il sera parano, etc. On en parlera tout à l'heure.
Mais on va.
Est-ce qu'on pourrait écouter un morceau ?
Exactement, on va écouter Whatever.
On va pas écouter It Miser parce que bon, c'est du bzz. Mais c'est pas très bien, mais on va écouter un des premiers morceaux qui est de 94, qui est inédit, qui est sorti dans une compil inédit après sa mort, et qui s'appelle Whatever Folk Song in C. Donc une chanson folk en do.
I've been wanting to do you're all done like you said you'd be. What are you doing hanging out with me?
Whatever, Fabien.
Eh oui, Whatever, vous avez apprécié, j'espère.
Excellente chanson.
Voilà, et puis surtout assez inconnue, donc c'est ça qui est bien aussi. Mais on voit déjà la qualité artistique du bonhomme, d'autant que quand on choisit de mettre à l'écart ce genre de chanson, ça veut dire quand même qu'on est plutôt bon. Donc, voilà. Et donc, on parlait d'Edith Meiser, mais Elliott Smith ne va pas tarder à enregistrer en solo. Alors, c'est un peu un quiproquo qui fait du solo. Il n'était pas très content quand même du proto-grunge qu'il faisait avec Edith Meiser. Mais alors, il y a deux versions. Il y a une version qui veut que ça soit sa copine qui finalement ait envoyé une maison de disques sans en avertir Elliott les cassettes qu'il enregistrait sur son 4 pistes. Et il y a une autre version qui veut que qui est plus vraisemblable, a priori, elle a convaincu, c'est-à-dire elle est tombée sur les cassettes, elle a écouté, elle a dit c'est génial, et elle a convaincu quand même de l'envoyer, donc il aurait été au courant, c'est une version un peu moins romantique peut-être, mais en tout cas lui il n'était pas convaincu que ça marche. Il envoie une maison de disques qui s'appelle, je ne sais même plus comment elle s'appelle,
Cavity Search Records,
voilà, et le patron de Cavity, c'est un petit label, hein. Cavity Search Records, c'est local, et il écoute la cassette et il est subjugué, donc il veut tout publier tel quel. Ce à quoi au début Elliott Smith s'oppose aussi, parce que pour lui c'est pas des produits finis, il n'y a pas tellement réfléchi à l'édition d'un album, et il finit par accepter. Lui il pensait juste faire un petit 45 tours, un EP avec 4 titres, voilà, mais bon, un album entier, donc il n'y a pas énormément de titres dessus.
À l'époque on faisait encore des 45 tours.
Oui, voilà, à l'époque c'était encore des 45 tours, et enfin je veux dire des singles après ou des EP en CD, mais 4 titres, quoi, pas un album entier. Là je crois il doit y en avoir 8, je ne sais plus combien il y a de titres sur cet album. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 4 chansons qui ne portent pas de nom en fait. C'est dire à quel point c'est des démos, quoi, du travail inachevé. Ça s'appelle Song with the Name Number 1, Song with the Name Number 2, Song with. Comme ça, jusqu'à.
Il y a des paroles quand même.
Il y a des paroles, ouais, c'est des chansons. Ça, pour certains, c'est très abouti. Enfin, après tout, la plupart des morceaux, il est juste seul avec sa guitare à chanter, donc c'est rudimentaire, mais ça fait des belles chansons. Hein. Il y a juste une chanson ou deux où il a rajouté des petits rythmes, tout ça, mais ça reste assez court. Et donc. Voilà.
Il y en a notamment une dans le lot qu'il a écrit à 17 ans.
Oui, voilà. Bon, après.
Condor Avenue.
Voilà, écrire des chansons à 17 ans, c'est oui, pas non plus encore extraordinaire.
Non, mais les publier.
Après, c'est vrai que les publier et comme ça, un peu par surprise, c'est. Génial, ouais. C'est voilà. Alors, en tout cas, c'est pas tout le matériel qu'il avait à l'époque. Il en a écrit beaucoup d'autres. Là, on a entendu Folk Song in Sea, elle est pas dessus, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été totalement libre du choix de son premier album. Les chansons étaient là, le gars il dit on publie, c'est pas lui qui a fait le tri, qui a remixé ou autre. Il a juste choisi la pochette quand même, et c'est assez rigolo parce qu'il est pas dessus. On voit deux personnes qui sont deux membres d'Edith Meiser. Voilà, il trouvait juste la photo artistique, donc il a dit ok. Et le titre, je sais pas s'il est lui non plus, Roman Candle, voilà, le titre du premier album, je sais pas si c'est lui qui l'a trouvé ou pas, mais tout ça pour dire qu'il a pas eu beaucoup de latitude dessus sur ce projet. Mais qu'il en était content quand même. Enfin, il était content que ça sorte. Il s'est pas opposé, voilà. Et ça lui a permis quand même de faire ses premiers concerts en solo. Il a commencé localement, évidemment, tous les petits bars de Portland, etc.
En jouant seul avec sa guitare.
Seul avec sa guitare. C'est arrivé que Neil Gust, un des gars d'Edith Meiser, l'accompagne un peu, voilà, par-ci par-là, de faire avec des amis, mais globalement seul. Et devant un public quand même très clairsemé, quoi. C'est pas la gloire encore. Ça va monter très progressivement, en fait. On va voir la carrière d'Elliott Smith, c'est assez marrant. Que ça soit musicalement, au niveau de la qualité, que ça soit l'instrumentation au niveau de l'étoffe, ou que ça soit le succès, c'est vraiment une courbe très régulière. C'est-à-dire, il commence le petit album avec des démos, seul à la guitare. L'album d'après, il rajoute un petit peu d'instruments. ça sort à une plus grande échelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la fin, ça sera des albums pop, limite baroque, avec beaucoup d'instrumentation, qui ont du succès, où c'est très travaillé, elles sont léchées.
Cette première maison de disques, c'était quoi, une petite maison de disques?
Oui, c'est une maison locale, voilà. C'est une petite maison locale. Et il la quitte très vite, d'ailleurs, cette maison de disques. Alors, les raisons ne sont pas expliquées. Je pense surtout que c'est son futur label, qui est le Rockstar, qui est allé le voir en lui disant « On est intéressé par ce que tu fais. » Et qu'il a dit oui. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment regardé les contrats. On en parlait tout à l'heure de ses problèmes avec les contrats. Je pense que c'est le genre de type, il n'en a absolument rien à faire. Et il ne veut surtout pas mettre le nez dedans. Il s'est fait entuber sans doute plusieurs fois. Et bon, là, qu'il Rockstar vient le voir, lui, ça lui semble un projet noble. Il y va et puis voilà. Donc, il quitte déjà son premier label, Kill Rockstar a un peu plus d'envergure, c'est pas un gros machin, mais bon, voilà, ça permet une diffusion plus large, parce qu'il faut se rappeler encore une fois qu'aux États-Unis, la diffusion de la musique, c'est pas comme en France. En France, tout est nationalisé, tout est centralisé, tout est à Paris. Aux États-Unis, les radios sont régionales, les télés sont régionales, les journaux sont régionaux, les labels aussi. Et bon, bah, quand on sort un album qu'on est de Portland, bah, on diffuse sur la côte ouest, ouais. Point barre.
Et encore, pas toute la côte ouest.
Et pas toute la côte ouest, le nord de la côte ouest et les radios de la côte ouest, etc. Et à New York, finalement, on ne nous entend pas, on n'est pas distribué, on n'est pas entendu. Donc, d'où l'importance d'avoir un label plus large.
Ce qui fait aussi qu'il va pas mal bouger aussi, Elliott Smith.
Oui, il va beaucoup déménager. Ouais. Bon, on l'a vu déjà, il est né dans le Nebraska, qui est un peu le trou du cul des États-Unis, si je puis me permettre l'expression, ouais. Qui est en plus à côté du Wyoming, qui est l'équivalent de la Lozère. Et après, il va dans le Texas, qui est quand même un truc de rednecks qui est pas dans le même genre. Après, à Portland, c'est encore une autre histoire. Il va aller plus tard dans sa vie à New York, il va aller à Los Angeles. Ou en Californie, en dehors de Los Angeles. Il a même une période, non, je sais plus où il est allé. Il est allé il y a ses études dans le Massachusetts aussi. Voilà. Enfin bref, il est très mobile, il n'est pas attaché à une région particulière. On en fait un artiste de Portland, mais c'est juste qu'il a débuté. Quoi.
Il n'a qu'une guitare à prendre en plus.
En plus pour le début. Voilà. Et donc, il signe chez un nouveau label, Kill Rock Stars, au titre. Tuer les rockstars. Alors, c'est pas une rockstar, mais il finit à mort quand même. Donc, il y a beaucoup qui vont faire allusion au titre de ses labels ou au titre de certaines de ses chansons, plus tard par rapport au destin qu'il a connu. Son second album, il s'appelle Elliott Smith, tout simplement. Donc là, il a eu un peu plus le droit de regard dessus. Il a pu un peu plus choisir les chansons, ce qui fait qu'elles sont quand même... Ça ressemble déjà beaucoup moins à des démos. Ça reste guitare, voix, quelques petits instruments par-ci, par-là. Mais ça reste guitare-voix, mais c'est beaucoup plus léché, beaucoup plus propre. Et on va pouvoir s'en rendre compte tout de suite. On va écouter un morceau pour s'en rendre compte qui est vraiment un de ses meilleurs. On va en parler tout à l'heure au niveau du cinéma aussi, parce qu'il apparaît dans une BO d'un film de Wes Anderson. On en parlera tout à l'heure. Et la chanson s'appelle « Needle in the Hay ».
Some friend trying to cash some check. He's acting dumb. That's what you've come to expect. Needle in the hay. Needle in the hay. Needle in the hay. Needle in the hay. Sometimes they just get caught in the eye. You're pulling him through. Needle in the hay. Needle in the hay. Needle in the hay. Needle in the hay.
watching this dirty retreat. Falling out, six in pallet, dead sweat in my teeth. Gonna walk, 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 four more blocks, plus the one in my brain. Down, downstairs, to the man, he's gonna make it all okay. I can't be myself, I can't be myself, and I don't wanna talk. Taking the cure, so I can be quiet wherever I want. So leave me alone, you oughta be proud that I'm getting good marks.
Voilà, donc c'était donc Needle in the Hay, extraite de l'album Elliott Smith, c'est ça, le deuxième album d'Elliott Smith, forcément, qui va enchaîner avec un troisième qui s'appelle Either Or, qu'on traduit par Ou bien ou bien.
Ou bien ou bien.
Et, c'est,
ou bien.
Et c'est de qui ou bien à la base?
Søren Kierkegaard.
Quand même, oui. Il a fait de la philo, le gars.
Le philosophe danois. Danois. De ces pays-là, donc Søren Kierkegaard. Mmh. Effectivement, c'est, ça prouve un peu tout l'intérêt qu'a eu Elliott Smith pour la philosophie, pour toutes ces choses-là. Alors, c'est un album où il va commencer à explorer des thèmes qui vont être ceux de l'angoisse, du désespoir, de la mort, de Dieu, de l'enfer. Il aime bien l'enfer, apparemment.
Il en a peur.
Il en a peur, exactement. Et donc... voilà, ça, c'est aussi une manière de rendre hommage à la philosophie qu'il avait vraiment beaucoup aimé quand il avait une des rares choses qu'il a aimé finalement quand il a étudié à l'université.
Il enchaîne vraiment les deux albums là, c'est sur.
Non, il y a une petite pause. Le premier c'est 94, deuxième 95, là c'est 97.
Ouais, 97. Il est toujours chez Kill Rockstar. Et là c'est le premier album qui va recevoir un très bon accueil critique. Enfin, les autres n'en avaient pas eu quasiment.
Parce qu'ils étaient parce que les critiques n'avaient pas pu les entendre. En fait.
Voilà, c'est surtout ça. Et celui-là va être très très bien accueilli. Et là, voilà, comme disait Fabien, il y a encore une évolution. Dans toute sa carrière, il y aura eu des évolutions. Là, c'est musicalement, c'est beaucoup plus complet. Il y a beaucoup plus d'accompagnement, basse, batterie, guitare.
Il fait lui-même, je crois.
Il fait lui-même, effectivement.
Ouais, exactement. Et c'est
par des cas, il joue tous les instruments. Joue
de, voilà, c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il joue de tous les instruments sur ses albums, ce qui est pas facile finalement quand tu fais des concerts après.
Bah, surtout en même temps. Hein.
Ouais, tous les instruments en même temps.
Il jouait seul avec sa guitare. Hein,
à part Rémi Bricca, je crois. Hein.
Et voilà. Juste une question, parce que là, tu nous dis que les paroles sont un peu plus sombres, etc. Les paroles de l'album Elliott Smith, Fab, les chansons portaient sur quoi?
C'est déjà sombre, parce que Needle in the Hay, ça veut dire l'aiguille dans le foin, enfin l'aiguille dans une botte de foin, non, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est une allusion à la drogue, en gros, quoi.
Il y a beaucoup d'allusions à la drogue, à ces choses comme ça, à tel point qu'on a toujours dit, enfin on a souvent dit qu'il avait justement consommé des drogues dures, etc., alors que lui s'est toujours défendu pendant les années 90, en tout cas, en gros, sur ses trois premiers albums, d'avoir commencé, après on verra, il aura d'énormes problèmes avec tout ça, d'avoir commencé justement à être sous l'emprise de drogue. Et les textes qu'il écrit là, il n'est pas sous aucune...
Sous l'emprise de drogue dure, héroïne, et cocaïne, parce qu'il prend en fait shit et alcool à forte dose.
Voilà, l'alcool c'est...
Pendant ces années 90, tu
parles. Dès le début, ouais.
Il a quel âge là, à peu près?
Il est en 69, en 97, il a 28.
28, ouais.
Ah d'accord, ok.
28... qui fait que, sachant qu'il aura une carrière assez courte finalement. Hein.
Oui, on peut le dire.
Ouais. Ouais, on a déjà dit qu'il allait mourir, donc.
Fatalement. Hein, bon.
Fatalement. Voilà. Et beaucoup de gens considèrent que c'est son dernier album underground, entre guillemets, quoi. Que c'est vraiment celui qui va le mettre en lumière pour le grand public. Parce que c'est celui qui a vraiment accès à la critique, quoi. Donc, du coup, et qui commence à pas engager un virage pop, mais un petit peu quand même, quoi. Ça commence à plus être de la folk ou des choses comme ça qu'on a pu entendre.
Même si lui s'est toujours défendu de faire de la musique folk, parce que par vraie musique folk, on entend les chansons contestataires. En fait, folk, c'est pas je joue de la guitare, le folk, c'est pas ça. Et lui, il s'en défendait. Lui, finalement, l'orchestration, c'est venu après au fur et à mesure parce qu'il avait besoin de choses plus étoffées, mais c'était quelque chose de détaché des paroles. C'était pas c'est pas l'orchestration qui fait le genre de la chanson, en fait c'est plus ce que dit la chanson, et ça il a été relativement cohérent toute sa carrière, malheureusement avec des chansons quand même relativement morbides. Il se flagelle dans ses propres chansons, enfin c'est un peu il est son propre ennemi, il se déteste,
il est torturé, hein.
Il utilise des pseudos pour s'insulter lui-même, voilà, on l'entendait tout à l'heure, il parlait de Charlie, son beau-père qu'il battait, etc. C'est des chansons de rupture, parfois des chansons d'amour légèrement optimistes, mais il les chante d'une manière tellement désabusée que ça en devient presque plus triste, quoi. Ça fait le gars qui y croit pas, mais bon, il le dit quand même.
Luc fait ça aussi des fois, il utilise des pseudos pour s'insulter.
Et c'est ce qui le rapprochera d'ailleurs de quelqu'un dont on l'a souvent musicalement, mais c'est aussi parce qu'il est mort jeune, on va dire, à Nick Drake. Voilà, on l'a beaucoup associé à Nick Drake et... pareil, une sorte d'étoile comme ça dans la chanson qui a disparu, lui, à 26. Un peu physiquement, d'être mal dans sa peau au point que sortir un disque, c'est dur, jouer sur scène, c'est dur. Moi, je fais mes chansons dans mon coin, c'est des trucs tristes, et puis les barbituriques, et puis les...
Bob Dylan,
sur ce côté
un peu sur scène, il a du mal.
Bob Dylan, il joue un personnage. Enfin, il a joué plusieurs personnages.
Je pense qu'il les a joués.
La différence, c'est que Bob Dylan a un ego surdimensionné depuis le début, et conscient de son talent depuis le début. Alors que ces types-là, ils n'auraient pas été publiés, ils auraient presque été plus heureux.
C'est plus la timidité, Elliott Smith, qui cette sensibilité.
C'est maladif.
Bob Dylan, en concert, t'es capable de ne pas le voir de tout le concert. Il est derrière ses musicos aussi.
C'est vrai qu'il était timide aussi.
Sauf que Bob Dylan, c'est un type qui s'engage dans le Neverending Tour à la fin des années 80 et qui fait un concert par soir depuis dans des bleds paumés à l'autre bout du monde. Parce que tous les soirs, il faut qu'il soit sur scène.
Oui, non, mais je te parle dans ce côté.
Elliott Smith, à la fin de sa vie, il faisait deux concerts par an et il ne les finissait pas. Il est tellement hilarant.
Dans ce côté un peu en retrait du devant de la scène, finalement.
Sur la vision que ça donne d'un type qui s'en fout du public.
C'est un peu ça. D'ailleurs, on va en parler. On va d'abord écouter une petite chanson, mais il y a deux extraits de Ou bien qui vont être utilisés pour des BO de films. On va voir tout de suite avec Fabien que sa contribution au cinéma est pas négligeable. On va peut-être écouter un autre extrait.
Between the Bars.
Between the Bars.
Où il y a un jeu de mots entre les bars, évidemment, et puis les bars d'une prison, etc. Enfin.
Qui est un morceau un peu noir quand même, un peu.
Oui, il n'y a pas beaucoup de morceaux pas très noirs, mais c'est encore un morceau un peu noir.
Allez, c'est parti.
Allez.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still.
drink up, baby. Look at the stars, I'll kiss you again. Paint on the bars where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you separate from the rest, where I like you the best, and keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to you.
Voilà pour Between the Bars. Alors Fab, comme nous disait Luc, son apport à tout ce qui est film, à cette industrie cinématographique.
Oui, tout à fait. Alors c'est un apport qui est, j'allais dire encore une fois avec Suisse, malgré lui. Mais il a beaucoup servi le cinéma et on en est très content, notamment avec Between the Bars qu'on vient d'écouter. Donc il habitait à Portland, on le disait tout à l'heure, et à Portland il y a un réalisateur qui s'appelle Gus Van Sant, qui a déjà un petit succès, qui est underground certes, qui est un cinéma indépendant américain, et qui connaît Elliot Smith, qui l'a déjà vu jouer sur scène, et qui lui demande donc de faire la BO d'un de ses films à venir. Tu veux dire quelque chose?
Oui, Gus Van Sant qui va réaliser plus tard un film qui s'appelle Elephant.
Oui, Palme d'Or à Cannes.
Palme d'Or à Cannes, et qui est plus ou moins la vie de Kurt Cobain.
Non, c'est la tuerie de Columbine.
C'est l'ami de Björk.
Oui, c'est le mari de. Non, c'est Lars von Trier.
Ah oui, c'est Lars von Trier.
Cette conversation, c'est.
Il a fait un film sur Last Days. Last Days, voilà.
Last Day ou Last Days.
Qui raconte plus ou moins déguisé la vie de.
La mort, la dernière semaine de Kurt Cobain. Ouais.
Exactement. Voilà.
On a déjà parlé dans.
Tout à fait. Donc voilà, enfin bref, Gus Van Sant va le voir, lui dit je veux que tu fasses des chansons pour la BO du film à venir qui est Good Will Hunting. Will Hunting en français, ils ont traduit Will Hunting.
Enfin, ça me dit quelque importe. Chose.
C'est avec Matt Damon et Ben Affleck, scénario de Matt Damon et Ben Affleck, c'est ce qui les a lancés, qui les a fait connaître au monde, et puis après leur carrière a été extraordinaire. Enfin bref, donc il accepte, mais encore une fois, un peu malgré lui, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il dira plus tard à propos du succès de cette BO, je me rendais pas compte de l'importance que ça allait avoir dans le film. Lui pensait que ça allait être utilisé vaguement, genre quelqu'un met une cassette en fond, vaguement, on entend un bruit. Hein. Non, et là il se rend compte que dans les scènes, c'est vraiment utilisé de manière superbe. Et il dira, si ça avait pas été de moi, j'aurais cru que les chansons avaient été composées spécialement pour le film. Or, il en utilise 4, dont 3 qui ont déjà été écrites, dont Between the Bars, qui réorchestre. Là, pour le coup, on a entendu la version de l'album. Et là, il réorchestre avec Danny Elfman, qui est le gars qui fait les musiques de films de Tim Burton, et qui fait, lui, le score, enfin la musique, l'orchestration pour le film Good Will Hunting. Donc, il fait Between the Bars, il en fait 2 autres, dont je ne sais plus le nom, mais qui sont sur les albums Roman Candle et Elliot Smith. Et voilà. Et il y en a une qu'il écrit spécialement pour le film, en revanche, qui est Miss Misery. Donc voilà, l'air de rien.
Il y a deux chansons de Heather Orr, Angeles et Say Yes.
Voilà, Angeles et Say Yes. Et donc il écrit juste Miss Misery spécialement pour le film. Or, à sa grande surprise, cette petite chanson, selon lui, se retrouve sélectionnée, nominée pour les Oscars de la meilleure bande originale de film, de la meilleure chanson originale pour un film. Donc, bah, lui, il accueille la nouvelle un peu comme d'habitude, c'est-à-dire il est surpris, à la fois content et choqué. Enfin, ça le met dans tous ses états, quoi, comme à peu près tout. D'autant que la cérémonie des Oscars, elle mériterait quasiment une émission à part entière, tellement il y a de choses à raconter dessus. Mais en gros, tout de suite, il dit « je ne veux pas y aller ». Donc, eux, ils disent « si, viens ». Il dit « non, je ne veux pas ». Si tu viens, de toute façon, si tu ne viens pas, ta chanson, on la fait jouer par n'importe qui. Donc là, du coup, ça le convainc de venir. Après, il dit « je veux jouer assis ». Il joue qu'assis sur une chaise.
Sur une chaise.
Voilà. Et il dit « ah non, ça, hors de question. Tu fais ce que tu veux, mais tu as droit à tout, mais tu joues debout. Ok, joue debout.
La galère.
La chanson de la version originale doit durer, je sais pas, 3 minutes quelque chose. Là, c'est 2 minutes, point barre. C'est comme ça. Ça ouvre par, par les violons Danny Elfman vaguement derrière, puis il commence à la guitare, etc. Enfin bref,
ah, c'est Oscar,
il commence à comprendre qu'il est dans un monde qu'il connaît pas du tout. C'est-à-dire pour la plupart des chanteurs, c'est une chance extraordinaire. C'est un truc, c'est génial. Lui, mais il vit ça comme une contrainte absolue.
Et puis
tout
sachant
le temps.
qu'il a encore quasiment jamais fait de télé. Il est pas encore passé à la télé.
Il a fait une télé. Là, c'est en 97, ouais, les Oscars, 97. Mars. Il fait une télé début
en 98
du... 98 pardon. Il fait une télé au début du mois de mars 98. Sa première, c'est le Conan O'Brien Show ou quelque chose comme ça. Et 15 jours après, les Oscars. Quoi. Donc, il est catapulté, il est perdu au milieu de nulle part. Et c'est un peu la nouvelle coqueluche de l'Amérique. Genre, chouette, on a quelqu'un underground avec tous les people en face. Ça fait bien, quoi. Ça fait... Et lui, il se sent utilisé, il se sent... Bon, il y va quand même. Le seul truc qu'il impose, il s'en foutait totalement. Il disait, OK, vas-y, c'est bien. C'est qu'il voulait un costard blanc. Bon, ben voilà. Lui qui était toujours habillé avec des frusques pas possibles, ben là, il veut son costard blanc qui sera dans le clip de Miss Misery. Un petit clip qui est fait où il marche dans la rue avec son costard blanc. Bon, il y va, il joue, il est face au public. Il ne regarde pas le public. On voit sur les vidéos, je vous conseille d'aller voir sur Internet. Ça fait peine à avoir pour lui presque, parce qu'il chante merveilleusement bien, il joue bien, hein, y a pas de problème, mais il est totalement décontenancé, quoi. C'est, il arrive,
ouais, il est effrayé,
il baisse c'est les fou. Yeux, il racontera plus tard, j'ai levé les yeux, j'ai vu Jack Nicholson sur le côté, et tout de suite le regard, il faut que je le mène ailleurs, et genre il a perdu au loin un endroit, là c'est bon, ça va, et puis sinon je regarde mes chaussures.
Shoegazing.
Et voilà, shoegazing. Et donc il repart de là, ça fait un tabac, ça le permet de faire connaître vraiment. Enfin, il y a des milliards de spectateurs, ah ben ça, quoi. Ouais, c'est pas rien. Le film marche en plus. Le film,
oui,
fait,
c'est
voilà, c'est Oscar, un succès crois, critique et public. Il a eu, ouais, il a peut-être Oscar, eu plusieurs hein. Oscars. Lui, il a pas l'Oscar.
Non.
Parce que il se trouve que cette année-là, face à lui, il y a Céline
Dion
avec
My
Heart Will Go On, Titanic, rien
voilà,
de moins. Donc
voilà,
il se retrouve face à ça, donc autant dire que de toute façon, il savait, lui, il s'en foutait totalement, et le verdict d'ailleurs du jury, il a accueilli en disant c'est très bien, enfin, lui,
il s'attendait pas à gagner. Il a dit j'adore cette chanson de Céline Dion.
Non. En revanche, Madonna qui ouvrait les enveloppes, quand elle a ouvert, elle a dit oh, quelle surprise, oh là là, c'est Céline Dion. Et elle avouera plus tard que la chanson Between the Bars, là, qu'on a écoutée tout à l'heure, c'était qu'elle estimait vraiment beaucoup Elliot Smith. Donc même quelqu'un comme Madonna, quand elle dit ça dans une interview, t'imagines tout de suite qu'il y avait 1 000 gamins qui vont aller acheter le disque. Et que c'était une des plus belles chansons des 20 dernières années, une de celles qu'elle aurait aimé écrire, quoi. Donc, alors que c'est des univers quand même très différents. Bon, bref, comme quoi le cinéma, là, déjà, ça lui fait prendre une dimension différente. Et au même moment, enfin juste après... Il participe à une autre BO qui marchera beaucoup. Je ne sais plus si on en parlait hors antenne ou à l'antenne, mais il fait une reprise des Beatles Because, tirée d'Abbey Road, une reprise merveilleuse qui sert carrément au générique de fin d'American Beauty, qui là aussi a un gros succès public et critique, qui est de Sam Mendes, qui réalisera les Spider-Man après quand même. Donc voilà, et ben voilà, ça combiné à ça, à son album qui commence à trouver de l'écho et tout, ça marche beaucoup. Donc les réalisateurs, évidemment, ils s'engouffrent dans la brèche. On va pas citer tous les films, d'autant qu'il y en a qui sont pas sortis en France, etc. Il y a vraiment de tout, mais il a participé peut-être à 25 films différents involontairement, c'est-à-dire ils achètent les droits et diffusent la chanson. Il a rarement écrit spécifiquement pour le cinéma,
à part Miss Misery,
et donc il y a une utilisation très
à part Miss Misery.
Oui, tu as parlé dans le micro. Un peu.
Très intéressante, surtout toi, Ludo, tu adores ça, donc hein, tu peux en parler des heures, j'imagine, mais les Royal Tenenbaums, la famille Tenenbaum, alors c'est Wes Anderson, là encore, qui est fan d'Eliot Smith, qui va le voir et qui lui dit « Je veux que tu rejoues Hey Jude pour moi ». Et il veut lui faire jouer Hey Jude pour le début du film. Et il se trouve qu'il était dans un état déplorable à cette époque-là, on est en 2000-2001, juste avant la sortie du film. Et que là, il dit c'est pas possible, il enregistre un truc, ça va pas du tout. Mais il veut quand même l'intégrer au film et il l'intègre d'une manière superbe. C'est peut-être une des plus belles scènes musicales des films de Wes Anderson qui pourtant s'y connaît, avec une scène de suicide de Luke Wilson. Oui, c'est
ça. Mais c'est Needle in the Hay.
Needle in the Hay qu'on a écouté tout à l'heure. Voilà.
Jude,
ouais. Et du coup, voilà, comme il n'était pas capable de faire la reprise, il était dans un état déplorable. Bah, il a pris un morceau qui existait déjà. Et qui semble là encore écrit pour le film, tellement c'est.
Il n'avait pas eu des problèmes de droit aussi pour reprendre Jude.
Non, parce qu'il
ça.
A fait jouer
par le
Mahavishnu Orchestra, je sais pas
ah
quoi,
oui,
là, un truc bizarre avec une reprise rigolote. Mais c'était vraiment c'était dû à l'état de santé d'Elliot Smith. Quoi.
Wes Anderson qui a toujours des bandes qui sont vraiment excellentes.
Et est très adapté aux scènes.
Très adapté aux scènes. Et c'est vrai que Needle in the Hay, c'est une scène incroyable. Ouais.
Oui, on pourrait faire une émission sur les choix musicaux de Wes Anderson.
Ouais, les Kings, d'ailleurs, Dungeon Unlimited.
D'ailleurs, Wes Anderson, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu dans cette émission.
Oui, bien sûr. On pourrait l'inviter, ouais.
On pourrait.
Ouais. On vire Dave.
On l'invite.
Oui, Dave d'ailleurs.
Ah, je crois que Dave est parti sauter sur le golf.
C'est transformé en boîte de pizza vide.
Bon, très bien.
D'accord. Et là, on peut proposer à Dave de manger une pizza à Dave.
On va peut-être écouter Miss Misery, donc la chanson qu'il a fait connaître. S'il doit y en avoir qu'une. Alors, bon, on va l'écouter dans une version. Alors, elle est jamais sortie sur un album, du coup, à part sur la BO de ce film. Ouais. Moi, j'ai décidé de vous faire écouter une version un peu différente, qui est une version primitive de cette chanson. Pas une démo, mais voilà, où il est seul à la guitare et c'est tout aussi beau. Donc voilà, Miss Misery.
C'est parti.
I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. With the cold pain behind my eyes, it shoots back through my head. With two tickets torn in half and a lot of nothing to do. But it's all right, 'cause some enchanted night I'll be with you. The tarot cards and the lines in my head tell me I'm wrong, but they're untrue. I got plans for both of us that involve a trip out of town to a place I seen in a magazine that you left lying around. I can't hold my liquor, but I keep a good attitude, 'cause it's alright, some enchanted night I'll be with you. And though you'd rather see me gone than to see there come the day, I'll be waiting for you anyway. Next door TV's flashing blue, frames on the wall. It's a comedy from the 70s with the lead no one recalls. You vanished into oblivion, it's easy to do. And I cry to see when you talk to me the day you said we were through. But it's alright, some enchanted night I'll be with you.
Voilà donc pour Miss Misery. Luc, on va parler d'Elliot Smith maintenant, qui a signé chez DreamWorks, c'est ça ?
Oui, qui a signé, enfin, plus ou moins contraint et forcé, puisqu'en fait, son contrat avait Virgin a été racheté par DreamWorks. Donc du coup, le contrat et tous les droits d'Elliot Smith ont suivi. Il va sortir un nouvel album qui s'appelle XO, donc soit Bisou Calin.
Ah, pourquoi voilà. Bisou Calin ?
Bah parce que c'est un petit peu le ce que mettent les Américains à la fin des lettres d'amour. Donc X c'est pour je t'embrasse et O c'est pour câlin. En plus il y a deux.
Ah bon ? T'as jamais eu de lettre d'amoureuse quand t'étais ado ?
Si, mais je savais pas que ça voulait dire ça. Bah,
plus il y a de croix, plus elle t'aime.
D'accord.
Voilà. Et puis
je vais le découvrir maintenant, mais c'est un peu tard. Hein.
Bah, plus, tu peux les appeler, mais tu t'embrasses chez leurs parents alors.
Et ouais.
plus y a...
non, ça la fout mal. Allô, est-ce que votre fille est encore là ?
Ouais, c'est pas top. Donc
c'est pas terrible.
Cet album s'appelle donc Bisou Calin XO. C'est pas pour autant qu'il est joyeux, guilleret et ravissant. C'est plutôt ironique. Il y a notamment une chanson donc qui s'appelle Vals Number 2 qu'on va écouter tout à l'heure dans lequel il raconte un petit peu tout ce que son beau-père, donc le fameux Charlie, a pu lui faire subir. Mais voilà, il écrit ça sous forme de lettre à sa maman et il signe XO, donc bisous Calem, maman, ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors que, bah, pas du tout, ça va pas super bien. C'est l'album qui va se vendre le plus, 400 000 copies, 400 000 albums vendus, ce qui est plutôt pas mal.
Ce qui est bien, mais pas top, comme dirait la voix off dans La Cité de la Peur. Mais oui, non, 400 000, pour donner un ordre d'idée, à cette époque où les disques se vendent encore, donc c'est avant Napster et compagnie, on est en 98, c'est avant l'essor du téléchargement. Et donc en France, un disque de diamant, c'est 1 million, un disque d'or, c'est 100 000 ou 200 000, je ne sais plus combien c'était à l'époque, 200 000 peut-être. Donc voilà, là, il vend 400 000 à l'échelle mondiale.
400 000 à l'échelle mondiale, c'est pas terrible.
Voilà, en France, il en a peut-être vendu 30 000, 40 000. Bon, voilà.
Il faut savoir combien il en vendait avant aussi.
Avant, beaucoup moins.
200 000, ça avait été
Ouais, 200 000 Aether Or, et puis tu divises par 2 ou 3 à chaque fois. En fait,
c'est un album qui est beaucoup plus orchestré, non ?
Okay, ouais, beaucoup plus. Il utilise vachement plus de. Notamment de piano. Il joue beaucoup de piano dessus, et on tend plus ou moins vers ce baroque dont parlait Fabien tout à l'heure, qui va
grande pop orchestrée à la Beatles, Beach Boys, Zombies, etc.
D'ailleurs, il enregistre une chanson sur le piano que McCartney a utilisé pour Penny Lane.
Oui, voilà. Ouais. Alors, ça sera pour l'album suivant, mais qui est dans la même veine, un petit peu très pop, qui sera enregistré à Beyrouth carrément.
Donc, par contre, pour situer un peu l'état d'esprit dans lequel il est à cette époque, il a quand même failli mourir, puisque sous l'effet de la drogue, il s'est jeté du haut d'une falaise en Caroline du Nord. Il a dû son salut uniquement aux arbres qui ont retenu sa chute. Donc voilà, tentative de suicide ou pas, enfin bref, c'est pas très clair quoi.
Lui-même, ça n'expliquera pas en interview quand on lui demandera ce qui s'est passé. Il dira bah oui, je me suis jeté d'une falaise. On passe à un autre sujet. Donc voilà, ça peut être considéré comme un aveu de suicide ou pas, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était suicidaire. De toute façon, je veux dire, une tendance maladive.
Et que là, il a démontré, psychiatrique, ça a commencé à.
Et dépressif, dans le sens de la maladie, encore une fois. Pas déprimé, mais dépressif. Donc,
Et puis, il commence à avoir de vrais problèmes avec la drogue, avec beaucoup d'addictions différentes et variées. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. On va écouter ce fameux Vals 2, donc la chanson préférée de Dave qui est parti, et donc l'extrait de cet album XO.
La première chanson de l'album.
My memories remote. is falling out to our note to know. Here it is, the revenge to the tomb. That it's well understood. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Here today, expecting to stay. Things wrong. Dumbest of men with impossible plans to just leave me alone in a place where I make no mistakes, in the place where I have what it takes. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow.
Allez, voilà donc pour cette chanson Waltz 2. On va parler d'un album que j'adore, peut-être mon préféré de cet artiste, c'est Figure 8.
Le seul que tu connais, non?
Non, tu ne peux pas dire ça quand même.
Oh là là, tu sors. Alors là, hop, tu vas devoir avoir The God en face de toi toute l'émission.
The God.
C'est The God.
D'ailleurs, à propos de God.
Oui. The God ou de The God?
J'allais dire Will Smith. Elliott Smith a découvert les Beach Boys tardivement, comme un peu tout en fait. Bon, il avait les influences, on l'a dit tout à l'heure, il a beaucoup écouté l'album blanc. Il était du genre à écouter en boucle pendant 3 mois le même album, donc il s'est immergé dedans vraiment. Il écoutait beaucoup Dylan aussi, il a repris sur scène d'ailleurs Dylan, comme il a repris les Beatles, Long Long Long, Blackbird, Revolution, etc. Et il a été aussi très marqué par les Beach Boys, mais a posteriori, c'est-à-dire les gens lui disaient « Ah, ça nous fait penser aux Beach Boys, machin », et du coup, il a eu, pour lui c'était un groupe de surfeurs, tout ça, il n'aimait pas trop. Et il a écouté vraiment, on lui a dit « Écoute Pet Sounds ». Il a écouté Pet Sounds et notamment « God Only Knows ». Et là, il a été totalement subjugué. Il a dit « Ah oui, je comprends ce qu'on veut dire ». Et pareil pour Nick Drake ou des artistes comme ça. C'est en fait, les autres lui disaient « Ah, t'as dû être influencé par lui ». Il a dit « Non, je connais pas ». Il écoutait après et ça le nourrissait en retour.
Ah, en fait, vous êtes deux à aimer les Beach Boys. Elliott Smith, c'est toi.
Non, on est trois. Il y a Dave Bees aussi qui est là. Ah bah si, quand même, God Only Knows.
Vous comptez pour un.
Mais moi aussi, j'aime bien les Beatles. Bah, tout le monde aime les Beach Boys.
Les Beach Boys.
Bah oui, mais tout le monde aime les Beach Boys. Il y a le fan club des Beach Boys qui vient d'entrer dans le studio, arme à la main.
Qu'est-ce que c'est triste, alors.
Non, enfin bref, pour revenir à Elliott Smith, donc on est après XO, son état de santé empire, son état musical s'améliore encore plus avec une orchestration... parfaitement génial, et Figure 8 suit la même lignée, c'est-à-dire c'est encore de la pop baroque très étoffée où il joue tous les instruments. Il invite quand même quelques autres musiciens à jouer avec lui, il y a notamment John Bryan qui est un guitariste, auteur, compositeur, chanteur, producteur américain, qu'il invite dans une émission qui finalement ne sera diffusée qu'une fois, qui était un pilote
où il jouera. Je vous invite à d'ailleurs aller sur internet voir cette émission parce que il reprend Jealous Guy, notamment de John Lennon, Elliott Smith.
Il reprend
Waterloo Sunset des Kings, qui dénote aussi un excellent goût pour la musique pop britannique des années 60. Et avec John Bryan derrière et Brad Meldo qui vient aussi interpréter des morceaux avec lui, qui se met au piano pour ça. Donc voilà, il invite quand même quelques musiciens à cette période-là.
C'est un sacré mélange des gens parce que Brad Meldo, c'est pas nécessairement sa tasse de thé.
Ah ben si, au contraire, Brad Meldo a repris du Elliott Smith.
Oui, non, mais je veux dire, musicalement, ils sont pas nécessairement sur le même schéma.
Non, après, ça donne le bon goût de
Brad Meldo. Rappelez-nous qui est Brian Meldo.
Brad Meldo,
c'est le meilleur pianiste jazz contemporain depuis une vingtaine d'années à peu près. Voilà, et qui reprend régulièrement les Beatles, qui reprend Nick Drake, qui reprend Radiohead, Paul Simon, qui a bon goût. Quoi,
même
Nirvana, il a repris au piano.
5 minutes de God pour Ludo.
Donc voilà, et le fait de s'entourer comme ça en studio, qui est nouveau, vu qu'avant il jouait seul sur scène, sur un studio, etc., ça dénote aussi quelque chose qui sera repris dans plusieurs témoignages après sa mort, c'est qu'à cette époque-là, il ne voulait plus être laissé seul, parce qu'il avait vraiment des tendances suicidaires et un risque d'overdose permanent. Donc en fait, les gens restaient parfois toute la nuit chez lui juste pour veiller à ce qu'il ne lui arrive rien, et juste pour lui tenir la main parfois. On est là, on te tient la main. Il y a des journalistes qui ont raconté qu'ils sont allés l'interviewer, qui préféraient être interviewés chez lui à 22h plutôt que dans un bar à 8h. Et ils y allaient à 22h, et puis fin de l'interview, et puis lui il rajoutait un truc, et il rajoutait un truc. Et comme ça, les journalistes restaient toute la nuit au final, et lui il voulait pas dormir, il pouvait passer plusieurs jours sans dormir, il voulait pas rester seul quoi. Donc son état se détériore vraiment.
Il peut passer plusieurs jours sans dormir, et après perdre conscience pendant quasiment 24 heures quoi.
Ouais, voilà, il est tellement mal qu'après il tombe, et pareil pour la nourriture, c'est une période à laquelle il commence il s'alimente que de glace. Donc bon, on sait ce que ça fait au corps hein, quand on mange que des glaces. Vous me regardez là, par exemple, ça va. Mais moi, je dors. Donc.
Et tu manges de la pizza aussi.
Je mange de la pizza aussi et du tonic.
Ouais, tu vas pas nous faire croire que tu manges que des glaces.
Lui c'est psychotrope plus alcool, plus glace. Bon, bah la glace, elle passe moins moyen.
Mais Dave veille sur ton alimentation aussi. Dave qui n'est pas le Dave qui a débusé cette émission.
Le Dave muet. Enfin bref, tout ça pour revenir à Figure 8, qui est donc le dernier album enregistré de son vivant, enfin sorti de son vivant et enregistré de son vivant. La pochette est un petit peu connue, enfin dans le milieu en tout cas. Elle est prise au numéro 4000 et des rouettes sur Sunset Boulevard à Hollywood. Alors on est plus proche finalement de Beverly Hills que d'Hollywood, c'est près d'un petit magasin d'audio ou autre. Donc c'est Figure 8, c'est une figure qu'on fait au patin à roulettes, patin à glace ou autre, c'est une figure très compliquée. Et là ça montre donc des lignes bleues, rouges et blanches comme ça qui circulent, et lui il pose juste devant. Et donc après sa mort, les fans iront graver plein de graffitis dessus, mettre des fleurs, etc. Ouais. Ça devient un peu un lieu de culte, alors que bon, c'est une façade quelconque avec un dessin, quoi.
Il y a un mur John Lennon à Prague qui est juste face de l'ambassade de France.
Même à San Francisco. Il y a Janis Joplin, Jimi Hendrix, tout ça, qui sont sur des murs dans Aitchbury, etc. Enfin bref, c'est assez courant, mais là, depuis qu'il est mort, du coup, ça prend un tournant différent.
Il y a un passage à niveau qui a été classé monument historique.
Ah, au monastier ?
Non, pas au monastier. Pas un passage à niveau, un passage piéton, pardon.
je me dis boulevard du Souberan, je crois.
Boulevard du Souberan.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. C'est pareil. Hein. Enfin, voilà, donc Figure 8.
Figure 8 qui aurait d'ailleurs pas dû s'appeler Figure 8.
Non, qui aurait dû s'appeler...
Place Pigalle.
Place Pigalle, voilà, parce qu'à à cette époque-là, le Smith était amoureux d'une Française. Pour lui, ça faisait chicos un petit peu d'appeler sa place Pigalle.
En même temps, une Française que tu as rencontrée sur la place Pigalle.
Oui, non, mais c'est l'image que s'en font les.
Écoute, voilà. Pourquoi pas, hein.
Ouais, si t'as de l'argent, oui.
Il n'est pas non plus. De toute façon, il n'a pas appelé place Pigalle au final, il a appelé Figure 8.
Allez, on écoute un morceau.
Un album formidable, Ludo.
Ah, j'adore, moi.
C'est ton préféré?
Je pense, oui.
Tu en veux aux critiques d'avoir dit qu'il était légèrement moins bien qu'Ixo et d'avoir mis 9 sur 10 au lieu de 10 sur 10?
Exactement. Mais surtout certaines critiques qui, mais depuis l'album XO aussi hein, déjà, hein, qui se plaignaient de perdre l'essence de la musique d'Eliot Smith parce qu'il rajoutait des instruments. Mmh. Alors quand on demande à ces artistes de proposer chaque fois autre chose, et une fois qu'ils proposent autre chose, on leur dit toi, Eliot Smith, c'est toi seul et ta guitare, c'est pas un piano, c'est pas une batterie. Et je trouve ça un peu dommageable.
Un peu abusé. Mais je crois que certains critiques qui faisaient cette critique là sur l'orchestration, en fait, y avait une forme de, pas de jalousie, mais de, c'était un peu le secret le mieux gardé de l'Amérique, l'expression consacrée des critiques rock, le truc qu'on découvre comme ça, il n'y a que connaît, c'est un cercle de connaisseurs. Et c'est quand c'était encore underground, ils avaient l'impression que c'était leur chose un peu, et puis là, bon, bah, ça devient un peu plus grand public. Ils ont l'impression de le perdre. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a la période underground jusqu'à Ether Horror et qu'après, ça change. Or que c'est dans la continuité, on l'a dit. Au fur et à mesure, ça s'étoffe, ça s'étoffe, ça s'étoffe. C'est logique. Mais vu de la part des critiques, eux, ils se disent on perd notre petit secret à nous. Quoi. Bon, voilà, c'est pas...
On va écouter Son of Sam.
Ouais.
Qui est une référence, Son of Sam, à un tueur en série.
Oui, qui était à New York dans New les York années 70, je crois. Je ne sais plus l'année. Ouais, ouais. Mais lui a dit que ça n'avait rien à voir, en fait. Il a été très confus là-dessus, parce qu'évidemment, Son of Sam, pour les Américains, c'est tout de suite. C'est comme si on dit Human Bomb. Ici, Human Bomb, on sait que c'est Neuilly en 93. Ouais. Là-bas, tu dis Son of Sam, c'est le tueur en série New York des années 70, quoi. C'est au fin des années 60. Et lui, en fait, tu dis oui, mais en fait, c'est aussi Shiva dans la chanson, ce qui est un signe de machin, tout ça. Enfin, il a embrouillé les trucs et il a dit que non, mais bon, en fait, oui, on l'écoute.
Allez.
Voilà, Son of Sam, extrait de Figure Eight, l'album, le dernier album enregistré du vivant d'Eliot Smith. On va voir que bah, ça ne va pas s'arranger au niveau de sa santé, parce que là, ça va aller de pire en pire. On savait déjà qu'il avait fait tentative de suicide, qu'il n'était pas bien, comme disait Fabien, qu'il se nourrissait de glace. De choses comme ça, ça se détériore de plus en plus. Il devient limite parano, un peu plus que limite, il devient parano. Il est notamment obsédé par un van blanc qui le suit tout le temps. Et il va y avoir un épisode aussi avec
un vin blanc ou un van
blanc.
Voilà.
Une camionnette blanche qui le suit. Il doit enregistrer un album pour DreamWorks. Après, je crois que c'est après la tournée de Figure Eight, je crois. Sauf qu'il est, pas bien, ça se passe mal, il a des problèmes de drogue, d'alcool, il balance tout. Voilà.
Il enregistre d'abord avec le John Bryan, ouais, le musicien dont je parlais tout à l'heure.
Voilà.
Et John Bryan lui dit t'es trop drogué, on peut rien faire. Il clash complètement et lui, en fait, il jette à la poubelle les morceaux.
Parce qu'il dit ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, c'est pas bien. Donc,
il jette tout, sauf que DreamWorks demande des explications à John Bryan, qui dit moi je me barre, voilà la note,
voilà.
Des sessions en studio, et il dit il est où l'album, il n'y a même pas une chute de studio, rien. Donc il le
menace, et lui si c'est comme ça, il dit c'est comme ça, je vais me suicider,
Ouais, carrément, il dit ça à sa maison de disque, donc forcément ça calme un peu, donc il lui laisse un peu plus de temps.
Il lui laisse un peu, ouais.
Surtout vu le type, ils savent que c'est vrai.
Oui, voilà. Sur scène, c'est pire. Parce qu'il fait des concerts, alors il en fait de plus en plus rarement. Il a bougé maintenant, il est installé sur Los Angeles, on l'a vu avec, donc, quand ils ont fait la pochette de Figure Eight. Il est à Los Angeles, donc du coup tous les concerts se font dans cette zone-là, entre Los Angeles et la côte pacifique. Les gens sont choqués dans ses concerts. Alors, il est, outre le fait qu'il est barbu, il a des cheveux partout, les cheveux le crâne long, il est maigre. Surtout, sur scène, c'est un zombie, quoi. Il a des trous de mémoire, il ne se souvient plus des paroles des chansons. Alors que tous ses fans connaissent les chansons par cœur, ils ne comprennent pas, mais comment lui, il peut oublier ses propres chansons?
Il est une sale gueule à cette époque.
Il y a un crédit de Portland qui décrira un de ses concerts je crois que c'est 2001 ou 2002, voilà. Et à une époque où il fait vraiment en 2002, je crois qu'il fait 3 concerts dans l'année, quoi. C'est vraiment, il peut plus, et il dira c'est une des pires performances scéniques de tous les temps, quoi. Carrément, c'est le truc, le gars, c'est une loque qui arrive sur scène, ouais, qui marmonne, qui sait pas ses paroles, qui finit pas les chansons parce que
il marmonne des trucs en disant voilà, j'ai eu une mauvaise période, mais là je suis clean, tout va bien, alors que
apparemment pas.
Il semblerait pas. Et donc il est persuadé qu'il y a cette camionnette blanche qui le suit et que les gens de DreamWorks le suivent parce que ils veulent absolument.
Il est persuadé qu'ils l'ont cambriolé aussi. Voilà. Un jour, il serait rentré chez lui, il n'y aurait plus son ordinateur. Et donc, il a accusé DreamWorks d'avoir volé son ordinateur où il y avait des chansons dessus. Parce qu'il a commencé, après l'échec de cet album enregistré avec John Bryan, il s'est remis au boulot quand même sous la pression avec d'autres, etc. Et il s'est mis à bidouiller des ordinateurs un petit peu. Il a changé vraiment de style. Il voulait faire du bruit. Il disait à l'époque, je veux faire du bruit. Il revenait un peu au grunge du début, à faire des sons un peu plus lourds. Et à bidouiller des synthés ou autre. Et il est revenu, il n'y avait plus rien dans son ordi. En gros, il a accusé DreamWorks d'avoir tout piqué. Donc, il est complètement parano.
Complètement parano.
Mais les choses vont s'arranger un petit peu, parce qu'en 2002, il va sur une cure de désintox. Donc, il arrive à décrocher du crack et de l'héro.
Donc, ça marche quand même un petit peu.
Ouais, ça marche quand même un petit peu. Il se pose plus ou moins... Il a des soucis avec la police à un moment, parce qu'une sombre histoire entre des policiers et une personne dans la rue. Lui, il intervient, les flics le prennent pour un clochard, ils l'arrêtent, ils lui font mal au dos, à la main, enfin bref.
Passe la nuit au poste avec sa copine.
Jennifer Shiba, sa copine.
Ouais, on n'en a pas parlé encore de sa copine. Hein.
Bah, parce que là, il en a une nouvelle, il en a plusieurs. Nouvelle, ouais. Là, c'est la dernière.
C'est la dernière.
De son vivant.
Qu'il a eu depuis quand? Parce que ça, c'est intéressant.
Exactement, on je ne sais pas, mais ce n'est pas la même que Place Pigalle. Donc, ce n'était pas celle qu'il avait avant Figure Eight.
2001.
Mais elle réclame. Ils vivaient quand même à cette époque-là très, très, très ensemble, à tel point que. Bon, même si on peut soupçonner des mauvaises intentions, Jennifer Shiba, vu qu'il faut bien la nommer. Après sa mort, réclamera quand même 15%
des
revenus des albums à venir d'Eliott Smith, sachant qu'elle avait argué au tribunal qu'elle vivait maritalement avec lui, même s'ils n'étaient pas mariés, que c'était une vie en commun et que donc ils partageaient tout et qu'elle était sa manager.
Et en même temps, on verra au moment de sa mort.
Et elle a réussi à les avoir,
Non, elle a été déboutée.
Elle a été déboutée.
Et maintenant, tout appartient à la famille d'Eliott Smith qui fait pas que du bon boulot au final. Mais on va le voir dans la partie d'après.
Ouais,
Est-ce qu'on peut avoir une traduction là? On n'a pas eu de traduction aujourd'hui, c'est quoi ça?
Je vais faire une traduction donc, d'une chanson qui est la première chanson de l'album qui est sorti post-mortem, qu'il était en train d'enregistrer là. Vas-y, on va en parler après de cet album là, dans l'héritage de l'œuvre posthume. Parce qu'il vaut bien parler.
Parce qu'on n'a pas parlé de la mort.
On
n'a
pas parlé de la mort. Mais
pardon, c'est que j'ai cru que tu avais oublié.
Je vous fais la traduction, après on le tue, et après on parle de l'album posthume.
Alors attends, jingle.
Toute traduction. Fabien.
Dernier arrêt pour une résolution, fin de la ligne, est-ce confus? Alors va voir, qu'est-ce qu'il y a là-bas pour toi? Rien de nouveau pour toi à utiliser. Je n'ai pas de nouveaux numéros pour t'amuser, je n'ai aucun désir de t'utiliser, tu sais, mais tout ce que je pourrais faire ne sera jamais assez bien pour toi. Si tu n'y peux rien, alors tu n'as qu'à le laisser seul, laisse-le seul dès maintenant, c'est vraiment facile, je pense que tu l'oublieras aussi. Tu me conserveras à tes côtés jusqu'à ce que finalement je nous traîne tous les deux dans la boue, retirant les plumes de ton chapeau. Oui, je crois que c'est le moment. C'est ta destinée de le suivre. Et j'appartiens à ton zoo, alors j'attends confirmation. Que tu n'emploieras jamais ton pistolet prêt à faire feu, à moins que ce ne soit moi qui le fasse retentir comme si le fait d'être ici n'était pas beaucoup plus amusant. Rien de ce que je pourrais faire ne sera jamais assez bien pour toi. Si tu n'y peux rien, alors tu n'as qu'à laisser seul dès maintenant, c'est vraiment facile. Je l'oublierai à l'instant aussi, la pente à gravir. Je ferai ce que je pourrai, alors tu peux être ce que tu fais, la pente à gravir. Le coureur automobile vient tous les 5 dimanches. Oh Monseigneur, je suis un jour endormi. Rien de ce que je pourrais faire. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire que quelqu'un n'avait pas fait pour toi, que je n'avais déjà fait pour toi? La pente à gravir. Enfin, on voit que c'est triste.
Cost to cost, on traduit ça
cost
par
to cost,
la
ouais,
pente à gravir.
Ben,
la
côte à monter, quoi. The cost to cost.
C'était très beau.
Sinon, il y a côte à côte, mais pas dans le sens français de côte à côte.
Je trouve que c'était très beau là, jusqu'au pilote automobile qui n'avait rien à faire dans cette chanson. Mais...
Il prenait de la drogue.
Mais non, il avait arrêté.
T'as le droit à The God.
Alors, non, il avait arrêté parce que malgré tout, et on va le voir, la suite des aventures tragiques d'Eliott Smith. Il avait quand même réussi à décrocher.
Oui, et crack. Mais ce qui veut dire qu'il n'avait pas arrêté le reste.
Ben, pas l'alcool.
Pas l'alcool et pas les drogues dites douces, entre guillemets. Ni les médocs. Le drame va se produire le 21 octobre 2003, donc il y a quasiment 10 ans de cela, jour pour jour. Eh oui, on est timing, Dave. Elle est bonne ta pizza?
Bravo. Dave, une femme.
Oui, Dave a mué pendant ces quelques heures. C'est son saut sur la Golf Persic qu'il a. Il meurt de deux coups de couteau portés à la poitrine. Un suicide, dit-on.
Oui.
Même si
il y a polémique.
Il y a polémique, Victor. D'autant que l'enquête n'est pas officiellement close par les autorités américaines.
Officiellement, il n'y a rien. On ne sait pas si c'est même plus officiellement un suicide. Au début, ça l'était. Je vous lis la dépêche AFP sortie à l'époque, Agence France-Presse. Nous y sommes.
Publié à l'époque quand même.
Et publié à l'époque. Je l'ai imprimé. Je l'ai. J'ai la preuve devant moi. Et d'ailleurs, il y a même les fautes d'orthographe qu'il y avait à l'époque parce qu'ils écrivent Matt Damon avec un D à la fin alors qu'il n'y en a pas et avec un seul T à Matt.
Matt Damon.
Matt Damon. Enfin bref, le chanteur américain Elliott Smith a été trouvé mort après s'être apparemment suicidé à l'âge de 34 ans, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. C'est une dépêche du 22 octobre. Le corps d'Eliott Smith a été découvert par sa petite amie dans la cuisine de sa maison de Los Angeles, Californie Sud-Ouest, mardi en mi-journée. Il avait succombé à un coup de couteau dans la poitrine, ont indiqué des sources policières. Or, après, on verra au cours de l'enquête, effectivement, qu'il y a eu deux coups de couteau. Voilà, ça arrive, les suicides à deux coups de couteau, mais c'est déjà un peu moins... Le site de Smith a confirmé la mort du chanteur qui chantait des mélodies mélancoliques, dont l'une, Miss Misery, incluse dans le film Will Hunting, avec Ben Affleck, elle a parlé. Les responsables du bureau de médecins légistes de Los Angeles se sont pour la part refusés à confirmer qu'il s'agissait d'Eliott Smith. C'est-à-dire qu'il était dans un tel état aussi que bon, c'était à part l'ADN. Nous avons reçu le corps d'un homme dont la date d'anniversaire communiquée est le 6 août 69 et qui serait mort à la suite d'un suicide présumé d'un coup de couteau dans la poitrine. C'est tout ce qu'ils disent. Voilà. Alors, ce qui penche vers la thèse du suicide au début, il y a plusieurs choses. Deux coups de couteau.
Oui.
Donc, forcément, on se dit, voilà. Il avait gardé son t-shirt. Or, souvent, pour les médecins légistes et les spécialistes, ils disent que quand on suicide par arme blanche, on enlève son t-shirt.
Ouais.
Ça paraît con comme
quasiment
ça.
Quasiment tous les cas.
Voilà.
Ouais.
Quasiment tous les cas. Il avait laissé un petit mot, ce qui semble plaider ça pour le suicide, oui. À savoir « pardonne-moi, machin ». «
I'm sorry, love, Elliot, God forgive me ». Je suis désolé, je t'aime, Elliot, Dieu, pardonne-moi.
Signé Elliot, sauf qu'il y a une faute d'orthographe à Elliot.
Oui, mais non. Parce que la faute d'orthographe, en fait, c'est le policier qui a recopié le message, qui a fait une faute, qui a mis un seul T à Elliot au lieu de deux. Donc, c'est pas
donc
lui
ça a encore embrouillé les gens qui croyaient au complot, machin, ceci, cela.
En fait, si tu permets, je vais lire un extrait du rapport d'expertise médico-légale.
Allons-y.
Si ces problèmes de dépression, de même que l'emplacement et l'angle des coups portés à la poitrine, sont bien compatibles avec l'hypothèse d'un suicide, de nombreux éléments atypiques du dossier ne permettent pas de conclure au suicide, mais laissent envisager la possibilité d'un homicide, l'absence de blessure d'hésitation, le fait que les coups aient été portés à travers des vêtements ou encore la présence de petites blessures au bras droit et à la main gauche, peut-être des blessures de défense, constituent autant d'éléments troublants. D'autre part, le retrait du couteau par la petite amie ainsi que son refus de parler aux inspecteurs représentent d'autres éléments devant être soulignés.
Sauf que, démontons certaines choses. Donc, Elliot Smith, on l'a vu, la faute d'orthographe, finalement, c'est le flic. Le fait de ne pas enlever son t-shirt, il y a eu des amis témoins qui ont dit qu'il jamais il avait vu torse nu, que pour lui c'était quelque chose, il ne pouvait pas se montrer torse nu. C'était hors de question qu'on le retrouve mort torse nu. Donc s'il avait l'intention de se tuer, il fallait qu'il ait un vêtement dessus. Voilà. Les scarifications sur le bras, bah, il se trouve qu'il en avait depuis les années 90, vu qu'il se taillait régulièrement et qu'il s'auto-mutilait.
Ouais, ça en accepte.
Donc bon, voilà, ce n'était pas forcément la partie la plus crédible. Les deux coups de couteau semblaient sûrs d'hésitation. C'est vrai que c'est rare, mais bon, on a vu des gens qui se sont tirés deux balles dans la tête, donc c'est pas parce que c'est rare que c'est impossible.
Ouais, jamais vu, moi.
Ouais, ça arrive, il y a eu des rapports de médecins légistes qui ont affirmé...
Deux coups de couteau, il faut quand même le rentrer, le ressortir, le re-rentrer. Hein.
Oui, voilà.
Mais... C'est pas pam-pam, c'est...
Bah, quand t'es motivé, écoute...
On
et puis,
sait
non,
que c'est
en plus,
elle, on sait que c'est elle.
On sait que là, il n'était pas drogué, en plus, on a retrouvé aucune drogue dans son corps.
Aucune drogue, donc, et pas d'alcool.
Donc il n'avait pas les mouvements genre d'un drogué qui fait n'importe quoi et tout, il était sûr de lui s'il l'a fait vraiment. Donc bon. C'est un peu plus, voilà. Mmh. Alors, ce qui plaide en revanche en faveur de l'assassinat ou de la dispute qui aurait mal tourné, c'est qu'effectivement, le rapport de police au début dit c'est la copine qui l'a trouvé là comme ça.
Et qui a enlevé le couteau.
Il s'avère qu'en fait, ils ont eu une dispute, qu'elle s'est réfugiée dans la salle de bain pour prendre une douche, et selon sa version, et qu'elle a entendu crier, et là qu'elle est sortie, qu'elle lui a retiré le couteau, machin. Mais bon. Quoi ? Mais on sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est plus confus que ce
oui,
que le rapport
demande 15%.
Et il y a peut-être eu une dispute qui a mal tourné, où il commence à sortir un couteau, à se menacer de se le mettre, et à commencer à se le mettre, et elle y va allumer n'importe quoi. On n'en sait rien. Voilà.
Quoi qu'il en ait,
et c'est pas classé.
Il est mort.
Voilà, il est mort. Il n'est pas classé et il a été incinéré.
Cold case.
Il a été incinéré. Il n'a pas été enterré.
Ashes to ashes, dust to dust.
Exactement. On va peut-être écouter un dernier morceau.
Allez.
L'avant-dernier, I Better Be Quiet, qui est extrait de l'album Figure 8. Et bon, bah, le titre dit I Better Be Quiet. Donc c'est en rapport à la mort un peu.
Bah oui. Hein.
Wishing gave me a number. Wish I could call you today. Just to hear a voice. I got a long way to go, getting further away. If I didn't know the difference, living alone would probably be okay. It wouldn't be lonely. I got a long way to go, getting further away. A lot of hours to occupy. It was easy when I didn't know you yet. Things I'd have to forget. But I better be quiet now, I'm tired of wasting my breath, carrying on, getting upset.
that's not what I wanted to say. I prefer to say nothing. I got a long way to go. I'm getting further away. Dream as an army man with an order, just to march in my place while a dead enemy screams in my face. But I better be quiet now. I'm tired of wasting my breath. I wish I knew what you're doing and why you wanna do it this way. So I can't go the distance. I got a long way to go. I'm getting further away. I got a long way to go. I'm getting further away.
Et voilà, c'était I Better Be Quiet. Donc voilà, alors
il ferait mieux de rester tranquille.
Oui, bon, alors pour la thèse du suicide, pour revenir rapidement dessus aussi, on a parlé de Kill Rockstar, le label. Il faut dire qu'il avait signé là, à cette époque-là, un label qui s'appelait Suicide quelque chose. Enfin bref, il y avait quand même pas mal d'allusions. Il a fait énormément de chansons sur le suicide en dehors de ses tentatives. Donc voilà, forcément, ça plaide pas pour lui. Mais bon, on va parler de l'héritage et de l'œuvre posthume, car il a une œuvre posthume, notamment l'album qu'il était en train d'enregistrer au moment où il est mort. Alors certains disent qu'il était totalement fini et qu'il n'avait plus qu'à le sortir, c'est la version de la famille, et d'autres qui ont travaillé avec lui dessus disent mais pas du tout, il n'aurait jamais sorti le truc comme ça, c'est totalement incohérent. Il y a notamment un de ses producteurs qui dit bah, ce morceau-là qui apparaît sur le disque, c'est rigolo, mais c'est moi qui l'ai fait, je ne sais même pas comment il se retrouve là, c'est même pas lui qui joue dessus, donc bon, voilà. Donc c'est la famille qui a chopé les bandes derrière et qui a voulu sortir un truc un an après sa mort. Les chansons sont bien, mais visiblement, ils ont fait un travail un peu trop. C'est quand la famille s'en empare. Voilà. En gros, ils ont écarté toutes les chansons. Il était question de suicide. Bon, lui, il voulait un double album à la base. Là, il sort un album avec 15 morceaux et il manque 5 chansons qui parlent du suicide. Ça change un peu la tonalité de l'album quand même. Donc voilà, l'album reste très bien, mais on ne peut pas le considérer comme un album en tant que tel. C'est plutôt des inédits. Voilà, les derniers enregistrements d'Eliot Smith, il est très bien. On va écouter un morceau juste après, Let's Get Lost. Voilà. Sinon, on peut dire que
il y a beaucoup de posthumes. Hein. Il a laissé beaucoup de travail finalement.
On estime qu'il y a une centaine de chansons encore qui sont pas sorties, reprises ou pas. Voilà, parce qu'il en a enregistré sur scène, mais pas que sur scène. Et notamment, il y a une très très bonne compile qui est sortie, qui s'appelle New Moon, qui est sortie à la fin des années 2000 et qui compile toute la période 94-97, donc la période dite underground jusqu'à Either Or. Et où il y a une reprise de Big Star par exemple 13, mais où il y a tous les morceaux qui n'étaient pas sur les albums et qui sont tout aussi bien, quoi, vraiment exceptionnels. Voilà, sinon l'héritage, pour faire vite, il n'a pas suscité le même culte que Jeff Buckley. Il était un peu moins connu quand même, d'autant que Jeff Buckley a fait qu'un album, donc c'était vraiment foudroyant. Mais il a quand même été pas mal repris par pas
c'est
mal
bien
nouveau,
d'en faire qu'un en fait. Ça, les gens ils ont pas le temps de tout pouvoir comparer et tout.
Ils ont quand même sorti l'album posthume, la famille de Jeff Buckley, My Sweet Are the Drunk. Justement, il y avait deux disques, c'était totalement foutoir. C'était un peu gâché, mais bon. Donc voilà, non, l'héritage, il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui se revendiquent d'Eliot Smith, ce qui n'était pas le cas à l'époque où justement il n'était pas trop connu. Et malheureusement, encore une fois, sa mort lui a donné un peu plus de notoriété. C'est toujours pareil, quoi. Il y a des magazines qui en ont parlé pour la première fois le jour où il est mort.
C'était un super artiste, alors qu'eux-mêmes n'en avaient jamais parlé.
Voilà, à part la cérémonie des Oscars pour ceux qui s'en rappelaient. Mais bon,
comme ça arrive souvent.
Donc voilà. Mais Non, il est globalement assez souvent repris sur scène ou pas sur scène. Granddaddy a fait des reprises, ouais. Ben Folds.
Et puis de toute façon, il reste après toute son œuvre musicale via les films, puisqu'il a quand même été, dit tout à l'heure, repris dans beaucoup de films et qui continuera à l'être d'ailleurs.
Oui, tout à fait, parce qu'il est utilisé énormément aujourd'hui, du coup, dans un truc qui a pris son essor depuis qu'il est mort, c'est les séries. Les séries télé, les experts ou autres, c'est le nombre de fois où il y a une chanson d'E.A. Smith dedans, qui est totalement hors contexte d'ailleurs, mais bon, voilà, ça permet de le faire connaître un peu après tout. Voilà.
Donc, un peu dramatique de la musique.
On a fait le tour ou pas? On passe une chanson?
Allez, Let's Get Lost, Soyons Perdus.
Une des chansons du dernier album posthume.
Invited in, but I couldn't abide. Witness him again, burning every bridge that I cross, to find some beautiful place to get lost. I had true love, I made it die. I pushed her away, she said, please stay. Burning every bridge that I cross, to find some beautiful place to get lost, to find some beautiful place to get lost. Ooh, ooh. Follows me there, but I'll burn every bridge that I cross, and find some beautiful place to get lost, and find some beautiful place to get lost. Ooh, ooh.
Voilà. Bon, on a bien fait le tour là, peut-être maintenant les encore conseils.
Encore une chanson triste.
Bon, les conseils, Luc, tu commences?
Je dirais que vu le peu d'albums, tous, finalement. Ouais. Parce que.
Finalement.
Après vous avez deux choix, si vous voulez pas tous. Bon, il existe un best-of qui est un peu bancal, il manque des gros morceaux, mais bon, il existe un best-of, un introduction to Elliott Smith. Sinon, après, on peut diviser l'œuvre en deux, avec les premiers albums dits underground et ceux qui ressemblent plus à de la pop. Donc, ceux qui sont plus pop, Figure 8, XO, les deux indispensables. Ceux qui préfèrent les chansons acoustiques, seules à la guitare, Ace Horror, et Elliott Smith, le deuxième. Le premier est plus dispensable, parce qu'on l'a dit, c'est un peu des démos publiées telles quelles. L'album posthume est dispensable aussi, c'est bien pour les fans, mais ce n'est pas nécessaire. Et la compile New Moon est très New bien, Moon. Mais pareil, acheter une compile de deux disques d'inédits, c'est toujours réservé aux fans. Voilà. Après, il y a un film qui est en cours. Il y a un documentaire qui doit sortir sur Elliott Smith pour les 10 ans de sa mort.
Excellent.
Je ne sais pas quel jour exactement, mais ça doit être incessamment sous peu.
Oui,
et il y a une bio aussi qui est pas mal foutue
Heavens
a priori.
Heaven Adores You, voilà, j'ai cherché le nom de Nicolas Rossi qui lui a consacré un documentaire qui s'appelle Heaven Adores You. Il y a un bouquin aussi, je crois, un bouquin de photographie, mais je ne sais pas s'il est sorti finalement.
Si, on finit par le sortir avec des inédits en
des
plus
photos,
en
des paroles, des écrits de paroles, des contenus d'entretien, des choses comme ça, qui s'appelle Elliott Smith, tout simplement.
Et on ne saura que vous reconseiller d'aller revoir William Ting de Gus Van Sant, La famille Tenenbaum de Wes Anderson, American Beauty de Sam Mendes et beaucoup d'autres films, certains beaucoup moins bien, où il y a des chansons d'Elliott Smith. et de rater totalement la partie où Céline Dion chante dans Titanic.
Will go on. Voilà. Voilà, on va se quitter avec comme d'habitude, hein, l'extrait de notre prochaine émission.
Voilà, qui sera violente encore une fois.
Oui,
ouais, extrêmement.
Ouais, parce qu'il y aura 12 belles dans la peau, je crois même. Mmh. Tellement ouais. Ça sera violent.
Merci Fab.
À bientôt.
À bientôt Luc.
À bientôt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand t'auras 12 belles dans la peau. De duchesse et didactylo. Qu'est-ce que t'auras de plus sinon qu'un peu de plomb. Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras claqué ton grisby dans toutes les boîtes à coups de fusil, tu ne seras jamais qu'un pigeon avec un peu de plomb. Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand dans le feu de la passion, aux échelles des banilons, tu grimperas, après, qu'est-ce que t'auras? T'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras aimé à tout vent, et que tes poules n'auront plus de dents, pour te bouffer le cœur dans la main, eh ben, mon gros malin, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Et quand t'auras passé ta vie derrière les barreaux de ton lit, tu diras que tu t'en es payé, et oui, et puis après, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Mais peut-être bien que tu ne feras pas de vieux os avec tes 12 belles dans la peau. Tu tomberas un jour sur un gars qui t'enverra du plomb dans la cervelle et il te poussera des ailes.